Alors, il y a un an, une crise financière secoue le monde entier, aggravant brutalement la crise économique que nous connaissons depuis tant d'années. Aux États-Unis, une entreprise aussi importante que General Motors a été pendant plusieurs mois au bord de la faillite, arrêtant une partie de ses activités et réduisant ses effectifs. Le chômage explose. La pauvreté gagne désormais des couches de plus en plus larges de la population. Et alors que les spéculateurs immobiliers, premiers responsables de la crise financière, reprennent leurs activités nuisibles, des millions de personnes victimes de ces spéculateurs sont à la rue, expulsées de chez elles. En France, chaque mois, le chômage grimpe car les licenciements se multiplient. Et ceux qui ont encore un emploi voient régulièrement leur salaire amputé par le chômage partiel. Ce sont les fins de mois qui commencent le 5, ce sont les médicaments qu'on ne rembourse plus, les cantines plus chères ou même refusées aux enfants des plus pauvres, l'essence trop chère, le fioul domestique trop cher, le gaz et l'électricité trop cher, sans parler de la viande et des fruits. Partout, les magasins pour pauvres surgissent pour profiter de ce nouveau marché. Mais non, pour les dirigeants du monde bourgeois, tout cela n'est rien. Depuis quelques semaines, la bourse connaît une nouvelle embellie. Les cours des actions repartent. En clair, la spéculation, source de la crise financière, reprend de plus belle. Et ils osent parler de reprise. Ce qui compte pour eux, ce ne sont ni le drame du chômage, ni la multiplication des travailleurs pauvres. Seuls comptent vraiment les banquiers et la santé de leurs profits. La crise a pris un caractère mondial et elle a des conséquences internationales dont on est loin de pouvoir encore mesurer l'ampleur. Nous ne savons pas non plus comment va évoluer la situation. Mais ce dont on est sûr, en revanche, c'est que ni les gouvernements, ni les capitalistes n'ont de solution contre les crises, car le système est miné par ses propres contradictions. Il y a tout juste 80 ans, en octobre 1929, le système capitaliste entrait en crise sous le poids des mêmes contradictions. Le krach boursier de Wall Street, le 24 octobre 1929, a aussi entraîné une crise mondiale. Les populations ont été plongées dans la misère dans des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne. Les États intervinrent dans l'économie pour aider leur bourgeoisie. Des aides publiques aux entreprises et aux banques, des grands travaux et surtout des commandes militaires. Voilà à quoi se résumèrent les solutions géniales des économistes bourgeois, sans mettre fin à la crise économique. Non seulement le monde ne sortit pas de la crise, mais les conséquences de celle-ci furent dramatiques. 10 ans après le krach de Wall Street, en septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale débutait. Du moins pour la France, car dans bien des pays, cette guerre avait commencé plusieurs années auparavant. Et c'était la deuxième fois dans le XXe siècle que les bourgeoisies entraînaient le monde dans la guerre à cause de leur conflit d'intérêts entre impérialistes. En 1929, la crise avait réduit les marchés et donc aggravé les tensions entre capitalistes. Tout cela déclencha la marche à la Seconde Guerre mondiale. La seule force qui aurait pu s'y opposer était le prolétariat. Entre 1934 et 1939, des luttes eurent lieu. Des luttes sociales massives aux États-Unis, jusqu'à une véritable révolution en Espagne. Des millions d'ouvriers, à l'échelle internationale, se soulevaient contre la bourgeoisie et contre le fascisme. La puissance du mouvement aurait pu arrêter la marche à la guerre. Le prolétariat, en entrant en lutte, mettait en marche un processus qui pouvait mener jusqu'à la révolution, et donc mettre fin au conflit impérialiste fauteur de guerre. Cela n'a pas été le cas. Nulle part n'a surgi une direction révolutionnaire ayant du crédit dans la classe ouvrière et ayant pour objectif d'aller jusqu'au bout de cette lutte, jusqu'au renversement révolutionnaire du pouvoir de la bourgeoisie. Ces luttes ne furent au final que des occasions manquées. Et l'humanité entière a payé cher le maintien du capitalisme de la domination bourgeoise. L'impérialisme n'est sorti de la crise qu'au prix de 50 millions de morts et du génocide des Juifs et des Tziganes. Si nous avons fait le choix d'aborder cette période ce soir, ce n'est pas en raison des dates anniversaires, évidemment, mais parce que cette histoire-là est un enseignement pour le mouvement ouvrier. Il ne s'agit pas d'assimiler des situations, ni de vouloir prédire l'avenir. Le contexte politique actuel et celui de 1929 sont très différents, et l'histoire ne se répète pas, en tout cas pas à l'identique. Mais la compréhension des événements d'hier est indispensable pour les luttes de demain. Et pour cet exposé, je passe la parole à Geneviève Remmeringer.
capitaliste dans lequel a éclaté la crise de 1929 n'était certainement pas un monde stable et prospère. Au contraire, il sortait depuis à peine 10 ans de la boue des tranchées et la guerre avait laissé aux humains comme aux économies bien des cicatrices. Entre 1914 et 1918, les États européens s'étaient fait la guerre pour que leurs grands groupes financiers, industriels et bancaires dominent des espaces plus vastes, étendent leur empire au détriment des autres. Et la fin de cette guerre n'avait atténué aucun conflit. L'impérialisme allemand, qui étouffait dans ses frontières avant 1914, se retrouvait, après la guerre, encore plus à l'étroit, dans un territoire réduit par les soins des vainqueurs. La France et le Royaume-Uni, s'ils étaient des pays vainqueurs militairement, sortaient de cette guerre épuisés. Leur industrie, qui en faisait les premières puissances au XIXe siècle, était devenue retardataire. Seuls leurs empires coloniaux pouvaient encore compenser leur faiblesse économique. Et de plus, ils étaient endettés auprès de la nouvelle grande puissance impérialiste, les États-Unis. Les États-Unis, eux, étaient les vrais vainqueurs de cette guerre. Leur industrie et leur agriculture avaient connu un véritable boom pendant celle-ci. À partir de 1918, en échange des prêts accordés à leurs alliés, ils récupérèrent la plus grande partie des stocks d'or mondiaux. Résultat, quand tous les pays déjà en partie détruits par la guerre subirent les conséquences de l'inflation et de la perte de valeur de leur monnaie, les États-Unis apparurent comme la seule puissance stable. Alors si la guerre entre impérialistes était finie sur les champs de bataille, elle se poursuivait toujours dans le domaine économique et diplomatique. Les négociations pour les traités de paix passaient par des luttes entre vainqueurs pour tracer des frontières, pour signer des accords économiques, pour dépecer les vaincus. La lutte impérialiste reprenait de plus belle, même si elle se menait pour un temps seulement, en chapeau haute forme et en gants blancs. En fait, les traités de paix préparaient la future guerre mondiale. De plus, dans les premières années de ce qu'ils appelèrent la paix, toutes les puissances impérialistes partirent en guerre contre la Russie bolchévique, car toutes redoutaient la contagion révolutionnaire. Et elles avaient raison d'avoir peur, car une vague révolutionnaire internationale faillit bien renverser le vieux monde. Après la révolution russe victorieuse, des révolutions éclatèrent dans de nombreux pays, en particulier en Europe, mais aucune n'arriva à renverser la bourgeoisie. De ces échecs, il résulta l'isolement du RSS et le maintien du capitalisme, de l'impérialisme. Celui-ci venait d'échapper à la révolution, mais il n'échappait ni aux luttes entre bourgeoisies qui préparaient les guerres à venir, ni aux contradictions propres au système. La concentration des richesses dans quelques mains et la misère pour l'immense majorité de la population, tout cela étouffait le développement économique. Certes, les années 20 apportèrent l'illusion d'une période de prospérité retrouvée, mais elle fut de courte durée. La prospérité a surtout été une réalité aux États-Unis dans les années 20. La production industrielle explosa après-guerre. Elle était tirée par de nouvelles industries, l'automobile, la chimie, le caoutchouc, l'aluminium, le pétrole. Toutes ces nouveautés envahissaient la vie quotidienne. L'électricité se généralisa dans des villes dominées par des gratte-ciel. Bientôt, il y eut une voiture pour 5 Américains. La radio, le cinéma, élargissaient l'horizon de beaucoup. La technique permettait de produire plus, plus vite et moins cher. Cependant, tous ces progrès économiques, au lieu d'élever l'ensemble de la société, alimentèrent les contradictions du capitalisme. Entre 1922 et 1929, aux États-Unis, la production augmenta de 50%, mais les salaires ne connurent qu'une augmentation de 7%. Rien à voir non plus avec les dividendes versés aux actionnaires qui, eux, grimpèrent de 65% dans la même période. Dans les années dites de prospérité, au moins un tiers de la population américaine restait dans la pauvreté. Une grande partie des fermiers du Sud, l'immense majorité de la population noire et les personnes âgées. La production s'accroissait beaucoup plus vite que le niveau de vie de la population. Et cet écart entre les deux devait forcément finir par se transformer en crise, quand la production ne pourrait plus s'écouler. Cette contradiction permanente du capitalisme était amplifiée par le développement des monopoles. Ceci dominait de plus en plus l'économie. Aux États-Unis, par exemple, il y avait 181 constructeurs d'automobiles en 1903, il n'en restait que 44 en 1926. Dans le pétrole, la chimie, l'électricité, le tableau était similaire. Leur position, les positions de ces monopoles, leur permettaient d'aspirer toutes les richesses de la société. Les trusts utilisèrent les profits tirés des progrès économiques, des progrès techniques, non pour améliorer les capacités de production, mais pour spéculer. À partir de 1925, les investissements productifs ont commencé à baisser. La production ne leur rapportant pas les profits espérés, les capitalistes se tournaient de plus en plus vers la finance. Les banques, les industriels, les financiers, tous jouaient en bourse. La spéculation créa une bulle qui allait finir par éclater en 1929, mettant alors à nu les contradictions du système. Au final, entre la Première Guerre mondiale, les crises de l'après-guerre et la grande crise économique de 1929, le monde eut à peine le temps de respirer. Jeudi 24 octobre 1929, la bourse de New York s'écroule. Le décalage entre l'offre et la demande a fait chuter le prix des actions. 13 millions de titres sont vendus à des cours très bas. Et le 29 octobre, de nouveau, 16 millions de titres. Les milliards fictifs créés par la bulle spéculative s'envolent en fumée. Les banques, en manque de liquidités, gèlent les crédits aux entreprises et aux particuliers. La crise boursière devient crise bancaire. Des milliers de banques font faillite. D'étape en étape, le krach boursier d'octobre 29 se transforme en crise économique. En fait, celle-ci était déjà latente. La récession était amorcée depuis un an déjà. Les productions avaient du mal à se vendre. Les stocks ne s'écoulaient plus. La crise avait démarré. Le krach boursier ne fit que l'accélérer. Entre 1929 et 1932, la production industrielle américaine chuta de moitié. Les investissements de 89%. Les entreprises faisaient faillite les unes derrière les autres. Les prix baissaient car les ventes diminuaient. Et les profits suivaient le mouvement. Trois fois moins de profits en 1932 qu'en 1928. Mais les entreprises continuaient à verser des dividendes aux actionnaires. Des dividendes supérieurs aux profits d'ailleurs. Parce que les capitalistes préféraient piller les fonds de leurs propres entreprises pour continuer à s'enrichir. Pour essayer de rétablir les prix, et donc leurs profits, les grands groupes, ces fameux monopoles, diminuèrent la production, ce qui accéléra encore la crise. Tout était bon pour protéger la classe capitaliste des conséquences de la crise de son propre système et pour la faire payer à la classe ouvrière et à toute la population. Les agriculteurs furent les premières victimes de cette crise. Pendant la Première Guerre mondiale, la production agricole américaine avait explosé pour répondre au marché international. Mais avec le retour de la paix, les exportations s'étaient réduites. Sans débouchés suffisants, des milliers de paysans se retrouvaient étranglés par les dettes. La crise les ruina définitivement. Ils furent alors chassés de leurs terres par la misère. Pas parce qu'ils ne produisaient pas assez, mais pour la raison inverse. John Steinbeck, l'écrivain américain dans son roman « Les raisins de la colère », décrit la crise qui frappait les paysans. Je le cite. « Le travail de l'homme et de la nature, le produit des cèpes, des arbres, doit être détruit pour que se maintiennent les cours. Et c'est là une abomination qui dépasse toutes les autres. Un sol fertile, des fils interminables d'arbres aux troncs robustes et des fruits mûrs. Et les enfants atteints de maladies doivent mourir parce que chaque orange doit rapporter un bénéfice. Et les coronaires doivent inscrire sur les constats de décès, morts dus à la sous-nutrition. Et tout cela parce que la nourriture pourrit, parce qu'il faut de force la faire pourrir. Les gens s'en viennent armés d'épuisettes pour pêcher les pommes de terre dans les rivières et les gardes les repoussent. Ils s'amènent dans leurs vieilles guimbardes pour tâcher de ramasser quelques oranges. Mais on les a arrosés de pétrole. Et la consternation se lit dans les regards. Et la colère commence à luire dans les yeux de ceux qui ont faim. Dans l'âme des gens, les raisins de la colère se gonflent et mûrissent, annonçant les vendanges prochaines. Dans les villes, le chômage, les licenciements par milliers faisaient sombrer une grande partie de la classe ouvrière dans la pauvreté. le spectre de la faim et de la misère réapparaissait. Les familles ouvrières, ne pouvant plus payer leur loyer et chassées de chez elles, construisaient des bidonvilles aux abords des grandes cités étincelantes. En 1932, il y avait plus de 12 millions de chômeurs aux États-Unis, plus du quart de la population active. Sans espoir d'embauche, sans aide gouvernementale, ces millions de chômeurs s'alignaient dans les queues sans fin devant les soupes populaires. Et la situation était pire encore pour les ouvriers noirs. L'économie américaine était bloquée par le fonctionnement irrationnel du capitalisme. Et la crise, partie des États-Unis, s'étendit au monde entier. Elle se généralisa, car l'économie était depuis longtemps déjà mondialisée, comme on dirait aujourd'hui. Après le krach boursier, les États-Unis décidèrent de rapatrier leurs capitaux d'Europe. Les banques allemandes et autrichiennes, les plus liées aux États-Unis, se retrouvèrent alors au bord du gouffre financier. L'activité économique, irriguée jusque-là par ces capitaux, fut asphyxiée. De plus, la récession américaine provoqua l'effondrement du commerce mondial. Les exportations de tous les pays s'écroulaient, entraînant leur propre industrie dans leur chute. En quelques années, dans le monde entier, la chute de la production industrielle fut spectaculaire. Les pays furent touchés les uns après les autres. Partout, les méventes, les faillites et l'explosion du chômage. En 1933, on estimait à 30 millions le nombre de chômeurs, auxquels il faut certainement ajouter environ 10 millions de chômeurs non comptés, et tout cela dans les pays industriels seulement. Car dans les colonies et dans les pays pauvres, personne ne compte les miséreux. Face à cette catastrophe économique, les gouvernements cherchèrent des moyens de protéger leur propre bourgeoisie, bien souvent au détriment des autres. Leur politique se résumait au grand principe du « chacun pour soi ». Les gouvernements ressemblaient à des hommes en train de s'enfoncer dans des sables mouvants et qui chercheraient à s'en sortir en appuyant sur la tête des autres. Mais chacun de leurs gestes eut des conséquences sur la situation générale. Et c'est l'ensemble des politiques suivies par les différents gouvernements qui forment la trame des événements qui menèrent à la guerre. Aux États-Unis, en 1929, le président en place, Hoover, lança les premiers plans pour aider les banques et les entreprises. Il inaugura une politique de grands travaux pour relancer les investissements. En revanche, aucune mesure ne fut envisagée pour secourir la misère de la population. Les chômeurs ne recevaient aucune aide de l'État fédéral. Seulement, parfois, quelques dollars des associations privées ou des municipalités. Lors de la campagne électorale de 1932, Hoover était si vomi par toute la population qu'il ne pouvait pas sortir, paraît-il, de la Maison Blanche sans être accueilli par des jets de fruits pourris. Roosevelt fut élu et remplaça Hoover à la tête de l'État. Mais sa politique nommée le New Deal, la Nouvelle Donne, ne donna pas grand-chose et n'était pas si nouvelle que cela. Quand Roosevelt arriva aux manettes, une nouvelle crise frappait la finance américaine. Sa première décision fut de fermer momentanément les banques pour empêcher toute panique et ainsi pour les sauver. L'État prit des participations dans leur capital et racheta leurs créances. Le total des sommes dépensées par l'État pour aider les banques s'éleva à plus d'un milliard de dollars. Et à l'époque, c'était beaucoup. Malgré cela, les faillites bancaires continuèrent par milliers. Une des lois principales du New Deal fut la loi sur la reprise de la production industrielle, la NIRA, d'après ses initiales en anglais. Cette loi, en fait, aidait les grandes entreprises à former des cartels, des ententes, pour se mettre d'accord sur les salaires, sur les prix, pour éviter la concurrence, et pour se partager les marchés. Les grandes entreprises se retrouvaient favorisées, et cela les aidait à faire disparaître bien des petites. Dans le domaine agricole, le New Deal chercha à réduire la production pour faire remonter les prix. Pendant ce temps, à la campagne comme dans les villes, la population continuait à mourir de faim. Des chantiers aussi furent entrepris pour construire des barrages hydroélectriques et des ponts, pour réparer des routes et des voies de chemin de fer. Bref, pour pallier les manques d'investissement des capitalistes privés dans des domaines indispensables à la vie économique. Ces chantiers embauchèrent presque 4 millions de chômeurs, ce qui n'était toujours qu'une petite partie de ceux-ci. dans des conditions rudes, avec des journées de travail harassantes et interminables, et des salaires plus bas que les taux normaux. On appela même ces embauchés dans les chantiers les forçats fédéraux. Roosevelt, comme les patrons privés, voulait profiter de la crise pour tirer les salaires vers le bas. Les traitements des agents de l'État et les pensions des anciens combattants ont été diminués quasiment de moitié. Toutes ces mesures du New Deal étaient dictées, et parfois au sens propre, par les intérêts des grands capitalistes. La bourgeoisie américaine faisait payer la crise à toute la population, car c'était vital pour elle de prendre sur les classes populaires de quoi sauver ses profits. Mais dans cette situation de crise économique, de restriction du marché mondial, une guerre à mort s'enclenchait aussi entre les bourgeoisies mondiales pour la défense de leurs propres intérêts. Chaque bourgeoisie voulut protéger son marché national de la concurrence des autres, de ceux qui vendaient moins cher. Pour cela, les différents gouvernements augmentèrent les tarifs douaniers afin de faire grimper artificiellement les prix des produits étrangers. Et tout ça pour permettre aux capitalistes locaux de vendre plus cher leurs propres marchandises. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme, mais ça ne protège que les profits des capitalistes et rien d'autre. De telles mesures permettent surtout à la bourgeoisie de mener sa guerre économique sur le dos des classes populaires. Parce qu'au final, c'est bien la population qui en fait les frais, qui paye plus cher, qui voit son niveau de vie diminuer. Dans les années 30, toutes les bourgeoisies sont devenues protectionnistes. Hoover et Roosevelt, aux États-Unis, ont commencé à augmenter les tarifs douaniers. Mais ils furent suivis par tous les autres pays. Chacune des bourgeoisies essayait de prendre de vitesse ses concurrentes pour augmenter ses propres exportations, tout en fermant au maximum ses frontières aux produits extérieurs. Cet engrenage de mesures protectionnistes accentua l'écroulement du commerce mondial et eut des répercussions dramatiques pour bien des pays, car aucun ne peut vivre en vase clos. Dans cette situation de crise et de diminution importante des échanges mondiaux, la possession de colonies joua un rôle crucial. Les puissances coloniales, comme le Royaume-Uni et la France, purent se replier sur leur empire, le fermer aux autres, le pressurer encore plus. Cette politique permit à ces puissances d'échapper un tant soit peu à l'étouffement, alors même qu'elles étaient devenues des puissances de second ordre. En effet, le Royaume-Uni avait perdu son hégémonie économique. Son industrie était devenue archaïque et retardataire sur ses concurrents. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la vieille Angleterre ne sortait pas du marasme. Ses exportations étaient concurrencées par celles des États-Unis. Sa domination maritime battue en brèche. Les vieilles industries du charbon, de la sidérurgie et du textile connaissaient une crise permanente. Durant toutes les années 20, le chômage ne cessa pas, surtout dans les régions du nord du pays. La prospérité n'avait pas été au rendez-vous pour les Britanniques. En 1930, avec la crise, la production industrielle britannique commença à baisser. Les exportations chutèrent. Le gouvernement décida d'un plan d'attaque contre les travailleurs. Baisse des allocations chômage de 10% et réduction de leur durée. Baisse des traitements des fonctionnaires. Baisse de 27% des soldes des marins qui réagirent par une grève dans la Royal Navy. Incroyable. Le gouvernement favorisa lui aussi la création de monopoles. Ainsi, un seul cartel, le British Iron and Steel Federation, dominant 2000 entreprises, finit par contrôler les deux tiers de l'acier britannique. Et le principal gouvernement qui a mené la politique de défense des intérêts capitalistes en Angleterre était dirigé par le travailliste Ramsay MacDonald. C'est lui que les chômeurs ont dû affronter lors des marches de la faim en 1932, organisées par le Parti communiste britannique, pour protester contre la diminution des allocations chômage et refuser qu'on les réduise à la misère. En février 1932, ce pays, champion du monde du libre-échange, adopta une loi qui taxait les produits étrangers jusqu'à 20%. En contrepoint de cette mesure, le Royaume-Uni établit des accords de préférence impériale avec ses colonies et ses dominions. Les liens commerciaux s'amplifièrent entre la métropole et les colonies. Les barrières douanières, érigées autour de l'Empire, ont par exemple permis aux produits industriels anglais de pénétrer plus en Inde ou en Afrique du Sud et d'y empêcher toute industrialisation. Le repli sur l'empire colonial était la seule solution pour atténuer les effets de la crise pour la bourgeoisie anglaise. Dans l'autre puissance coloniale des Kakis, la France, la politique suivie était similaire. La crise y fut plus tardive, car son économie et son industrie étaient encore plus archaïques. En France, par exemple, le monde paysan gardait un poids largement supérieur à ce qu'il était dans les autres pays industrialisés. Mais quand même, la contraction du commerce mondial finit par faire chuter les exportations françaises de 60%. Dès lors, la production industrielle s'effondra. À partir de 1932, la taxation des produits étrangers approchait des 30%. Ces taxes s'accompagnaient de mesures dites de contingentement pour limiter quantitativement les importations. L'exposition coloniale de 1931 devait glorifier cet empire que la bourgeoisie comptait bien piller plus systématiquement pour compenser la baisse des échanges mondiaux. Les populations coloniales furent encore plus soumises aux travaux forcés et à l'oppression. Pour le reste, les gouvernements français ont été à l'unisson de ceux des autres pays impérialistes. Ils ont utilisé les mêmes méthodes pour faire payer la crise à la population laborieuse. Entre 1931 et 1935, les fonctionnaires virent leur salaire amputé de 13 à 17% et le chômage explosa. Les chômeurs n'étaient pas secourus, sauf par quelques mairies. Les premières victimes du chômage ont été les ouvriers étrangers. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les patrons des mines, après une campagne xénophobe, firent repartir des dizaines de milliers d'ouvriers polonais. Les ouvriers étrangers furent même interdits dans certains secteurs. Les ouvrières furent aussi les principales victimes de cette crise. Des campagnes réactionnaires en France, sur la place prétendument naturelle de la femme au foyer, justifièrent le licenciement de 500 000 d'entre elles entre 1931 et 1936. La politique économique des gouvernements en France se résuma à tenter de réduire la production. Dans l'industrie, l'installation de nouvelles usines de chaussures fut interdite. Dans l'agriculture, des lois interdirent de planter de nouvelles vignes, secteur important en France, ou de construire de nouveaux moulins. On chercha à réduire la production de blé et à réduire les importations. Toutes ces mesures furent quand même plus ridicules qu'efficaces. Aucun capitaliste n'avait donc de solution pour sortir de la crise, si ce n'est s'entre-dévorer les uns les autres pour défendre leurs profits et leurs positions. La bourgeoisie américaine, en exportant sa crise pour la faire payer par les autres. Les bourgeoisies anglaises et françaises, en étranglant l'Allemagne et en amplifiant le pillage de leurs colonies. La bourgeoisie allemande, en utilisant le fascisme. Les bourgeoisies italiennes et japonaises, dont on n'a pas le temps de parler ce soir, et qui avaient des objectifs d'expansion territoriale. Tous les capitalistes du monde, tous leurs États, ont contribué à la marche vers la Seconde Guerre mondiale. C'est avant tout une histoire commune, une responsabilité collective. C'est bien l'histoire globale du capitalisme, de la bourgeoisie mondiale, qui mena de la crise à la guerre en passant par le fascisme. La crise mondiale frappa durement l'économie allemande, la paralysant. La production diminua quasiment de moitié en Allemagne en 3 ans, entre 1930 et 1933. Ainsi, la bourgeoisie allemande, plus qu'une autre, était étranglée par cette crise. Et elle était confrontée à une classe ouvrière puissante et organisée. Depuis des décennies déjà, le prolétariat allemand avait formé des syndicats et des partis de masse pour lutter collectivement. Il avait acquis une conscience élevée de son poids, de son rôle, de sa force sociale. D'ailleurs, en 1918, le prolétariat allemand avait renversé la monarchie et s'était attaqué au pouvoir de la bourgeoisie. Mais les socialistes allemands, la social-démocratie, en s'alliant avec le haut état-major militaire, réactionnaire et monarchiste, réussirent à empêcher la constitution d'un véritable pouvoir ouvrier, à empêcher la victoire de la révolution prolétarienne. En janvier 1919, ils firent assassiner Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les dirigeants révolutionnaires. Et bien malgré cela, les événements révolutionnaires se succédèrent tout au long de l'année. En Bavière, les ouvriers prirent le pouvoir pour quelques mois. En 1920 encore, une puissante grève générale stoppa une tentative de coup d'État monarchiste. Une dernière tentative révolutionnaire eut lieu encore en 1923. Mais la classe ouvrière allemande n'arriva pas à renverser la bourgeoisie, mais elle ne fut pas pour autant écrasée. En quelque sorte, la contre-révolution en Allemagne n'était pas achevée. Et la classe ouvrière allemande garda ses forces, ses expériences acquises. Dans les années 20, la social-démocratie allemande comptait 1 million de membres. Elle dirigeait les syndicats, 4,5 millions de syndiqués, des coopératives, des associations. Les socialistes contrôlaient ainsi une association d'anciens combattants de 2 millions de membres, au sein de laquelle se forma la milice ouvrière socialiste, capable d'impressionnants défilés, même si elle n'était pas vraiment constituée pour combattre. Le Parti communiste allemand, quant à lui, regroupait sous le drapeau de la révolution prolétarienne des milliers de militants, jeunes, dévoués, intrépides, ayant vécu des expériences uniques. Imaginez ce que représente pour nous l'expérience d'une seule grève. Et imaginons ensuite ce que représentait l'expérience de 4 années révolutionnaires, avec la multiplicité des situations et des luttes que cela veut dire. On estime que le Front Rouge, la milice du Parti communiste, regroupait 100 000 hommes. Les ouvriers allemands avaient appris le maniement des armes pendant la guerre et pendant les événements révolutionnaires. Et leur capacité d'organisation pouvait leur permettre de devenir une force armée imposante. C'est cette classe ouvrière-là que les bourgeois allemands devaient affronter avec la crise qui arrivait. Pour la bourgeoisie allemande, la crise économique signifiait un danger encore plus grand pour les autres bourgeoisies. L'Allemagne n'avait pas de colonies. Elle subissait de plein fouet le protectionnisme des autres. Et en plus, elle était soumise aux contraintes imposées par les vainqueurs. La crise la forçait donc à choisir entre l'étranglement et la guerre pour le repartage du monde. Mais pour faire la guerre, il fallait d'abord écraser la classe ouvrière allemande, pour ensuite embrigader toute la population afin de la faire marcher au pas. Ce choix ne fut pas immédiat. Dans un premier temps, la bourgeoisie chercha à faire payer la crise à toute la population, en recourant à des gouvernements forts. En 1930, Hindenburg, le maréchal président de la République en Allemagne, plaça au pouvoir un homme de droite, Brüning, qui gouverna avec autoritarisme, sans demander son avis au Parlement. Le temps des jeux parlementaires pour trouver une majorité de pouvoir était révolu. Dès ce moment, la bourgeoisie allemande abandonna son costume démocratique, et les gouvernements devinrent de plus en plus autoritaires, de plus en plus réactionnaires. Les premières mesures de Brüning furent clairement anti-ouvrières. Les salaires, les allocations chômage furent baissés violemment. Les plus grandes entreprises et les grands propriétaires fonciers de l'Est du pays reçurent des subventions massives. Les banques, au bord de la ruine, furent rachetées ou aidées. L'État allemand finit par contrôler 3/5 du capital bancaire. Mais tout cela ne suffit pas pour rétablir la situation de la bourgeoisie. D'autant plus que la crise économique se doublait d'une crise sociale. La population allemande était broyée par la crise économique. Le chômage frappa la classe ouvrière massivement. Très vite, les chômeurs furent des millions. Dans l'hiver 1930-1931, près de la moitié des familles ouvrières vivaient, si on peut dire, d'allocations, de secours et de soupes populaires. La situation de la jeunesse était particulièrement dramatique. Un grand nombre de jeunes ouvriers erraient sur les routes, sans feu ni lieu, vivant d'aumônes ou de travaux occasionnels. Dans certaines régions, plus de la moitié des enfants souffraient de sous-alimentation grave. En septembre 1930, Brüning organisa des élections qui furent un électrochoc. Les partis traditionnels s'effondrèrent. Une véritable radicalisation politique avait lieu. Une partie du prolétariat, attaquée de plein fouet, parfois réduit à la misère, se tournait vers le Parti communiste, qui gagna 1,3 million de voix. Mais surtout, une bonne partie des classes moyennes, ayant perdu définitivement toute confiance dans le parlementarisme et dans les partis traditionnels de droite, vota nazi. Les nazis gagnaient dans ces élections 5,8 millions de voix. Trotsky analysait le national-socialisme comme, je cite, l'expression politique du désespoir des classes moyennes, des petits commerçants, artisans, paysans ruinés, d'une partie du prolétariat au chômage, des fonctionnaires et anciens officiers de la Grande Guerre qui portent toujours leurs décorations mais qui ne touchent plus leurs soldes, des employés des bureaux qui ont fermé, des comptables des banques en faillite, des ingénieurs sans emploi, des journalistes sans traitement ni perspective, des médecins dont les clients sont toujours malades mais ne savent pas comment les payer. La petite bourgeoisie se rebella contre tous les vieux partis qui l'avaient trompée. Ces vexations, vivement ressenties par les petits possédants qui ne pouvaient échapper à la faillite, par leurs fils qui sortaient de l'université et ne trouvaient ni emploi ni clients, et par leurs filles qui restaient sans dot et sans fiancée, réclamaient l'ordre et une main de fer. Ce parti nazi était issu des lendemains de la Première Guerre mondiale. Il avait d'abord été composé d'anciens combattants, souvent incapables de supporter le retour à la vie civile, et surtout incapables de supporter la perte de commandement. Ces hommes avaient alors commencé par en découdre avec les ouvriers révolutionnaires. Et le programme du parti nazi était un ramassis de préjugés de la petite bourgeoisie. Dans le mythe de la race supérieure, le petit bourgeois ruiné croyait retrouver sa fierté. La crainte envieuse envers le grand capital s'y trouvait exprimée par des propos enflammés contre la pseudo-finance juive et par la haine contre le petit boutiquier juif. Après un putsch manqué en 1923, Hitler ne fit que quelques mois de prison, car la justice, clémente avec l'extrême droite, lui accorda une remise de peine. Pour le même motif, atteinte à la sûreté de l'État et rébellion, 10 communistes furent condamnés à mort la même semaine. Les quelques années de stabilité économique faillirent bien être fatales au parti nazi. En 1928, il obtenait moins de 3% des voix aux élections. Mais avec la crise, le parti nazi allait se renforcer. Il attira à lui une grande partie de ces petits bourgeois qui étaient poussés vers la misère, eux qui pensaient avoir une place dans la société. Une partie de ces fils de la petite bourgeoisie qui, la faim au ventre, devaient faire la queue aux côtés des ouvriers qu'ils méprisaient et dont ils haïssaient le collectivisme. Des industriels, les premiers d'une longue liste, commencèrent à financer le parti nazi. Ainsi, il put enrôler les plus enragés de ces petits bourgeois qui cherchaient désespérément à la fois un espoir et un exutoire à leur colère. Et le parti nazi devenait un imposant parti de masse. Il profita aussi de la sympathie peu dissimulée de la police et de l'armée allemande qui voyaient d'un bon œil ce parti capable de lancer des troupes contre les organisations ouvrières. En 1930, les sections d'assaut, les SA, regroupaient 200 000 membres, dont plus de la moitié vivaient dans des casernes spéciales du parti nazi. Ils défilaient dans les rues, attaquaient les locaux des syndicats ou des partis ouvriers, s'en prenaient aux militants ouvriers. Pendant la campagne électorale de l'été 1930, 200 militants ouvriers furent assassinés par les SA. Ces fameuses élections de 1930 avaient donc révélé le danger réel représenté désormais par le parti nazi, par le fascisme. La crise poussait au désespoir et à la violence des centaines de milliers de petits bourgeois qui s'enrôlaient dans ce parti. Et cela pouvait donc fournir à la bourgeoisie une force sociale susceptible de contrer la classe ouvrière, d'anéantir toute opposition. Car pour s'attaquer à la classe ouvrière, la bourgeoisie allemande ne pouvait pas compter sur les seuls effectifs de l'armée allemande, car le traité de Versailles avait limité les effectifs militaires allemands à 100 000 hommes. Alors, dans les premières années de la crise, les bourgeois ont utilisé les milices nazies contre les travailleurs, contre leurs organisations, pour briser des grèves, pour casser des manifestations. Mais la bourgeoisie finit par faire plus encore. Elle finit par appeler les nazis au pouvoir, quand elle fut globalement convaincue de la nécessité de préparer la guerre, et donc d'écraser la classe ouvrière, de l'atomiser. Je l'ai déjà dit, mais au début de la crise en 1930, rien n'était encore définitif. L'ensemble de la grande bourgeoisie n'avait pas encore clairement fait le choix du fascisme. Même le ralliement de la petite bourgeoisie au nazisme n'était pas une fatalité. Le prolétariat représentait une force largement suffisante pour barrer la route au nazisme, pour attirer à lui ces classes moyennes désespérées par la crise. Alors comment expliquer la défaite? Comment expliquer que cette classe ouvrière si forte, si organisée, ait pu laisser Hitler arriver au pouvoir? Se poser cette question, c'est forcément se poser la question des partis ouvriers et de leur politique. Si de tout temps, spontanément, les travailleurs ont pu se révolter, mener la lutte des classes contre les bourgeois, pour devenir une force sociale, une classe sociale consciente de son rôle, le prolétariat a besoin de se regrouper, de s'organiser. Et surtout, pour défendre réellement ses intérêts, il a besoin de le faire sur le terrain politique, en contestant le pouvoir bourgeois. Il a besoin d'un parti révolutionnaire. Mais justement, les partis ouvriers en Allemagne n'étaient plus révolutionnaires. Et ils n'ont pas mené la lutte contre le fascisme. À commencer par le plus important d'entre eux, le parti socialiste, la social-démocratie. Cette social-démocratie était parfaitement intégrée par sa direction, par sa tête, à la société bourgeoise. Les socialistes étaient sagement assis dans leur fauteuil confortable de gestionnaires de cette société. Des centaines de milliers de fonctionnaires de l'État étaient sociaux-démocrates. En Prusse, par exemple, la police avait été recrutée en très grande majorité chez les ouvriers sociaux-démocrates. Le préfet de police lui-même était membre de ce parti. Et la social-démocratie allemande refusa de mener la lutte contre le fascisme. Même si certains dirigeants socialistes entrevoyaient le danger, ne serait-ce qu'en côtoyant dans les salons ces hommes de la bourgeoisie qui prônaient la destruction du mouvement ouvrier. Mais la perspective des luttes, la perspective de mettre en danger la société bourgeoise et leur propre position, leur était devenue totalement étrangère. Alors la social-démocratie allemande mit tout son poids politique à convaincre la classe ouvrière que pour se protéger du danger fasciste, elle devait s'en remettre aux institutions bourgeoises, voire aux hommes de la bourgeoisie eux-mêmes. Ces députés, les députés socialistes, refusèrent de voter contre les mesures anti-ouvrières de Brüning, en prétextant que cela ferait le lit de Hitler. Plus tard, aux élections présidentielles, la social-démocratie allemande fit voter Hindenburg contre Hitler, ce même Hindenburg qui appela Hitler au pouvoir. La social-démocratie en appelait donc aux représentants de la bourgeoisie pour la protéger du fascisme, alors que le fascisme était un outil utilisé par la bourgeoisie contre le mouvement ouvrier, contre la social-démocratie en particulier. Et les socialistes, non seulement ne menaient pas la lutte contre le fascisme, mais ils participaient à la répression de grèves ou de manifestations ouvrières là où ils avaient le pouvoir. En Prusse, par exemple, en août 1930, la police, dirigée par les sociaux-démocrates, tira sur des manifestants faisant plus de 30 morts. Des militants communistes étaient arrêtés, des meetings communistes étaient interdits. Toute la politique des socialistes allemands aboutit au final à livrer le prolétariat, pieds et poings liés, à la dictature nazie. Quant au KPD, le Parti communiste allemand, comme tous les partis communistes du monde, il avait été fondé en réaction aux trahisons de la social-démocratie. Il représentait donc l'espoir d'une perspective révolutionnaire face à l'intégration socialiste. Mais sous l'emprise du stalinisme, le Parti communiste allemand avait cessé d'exprimer les intérêts du prolétariat. Il avait cessé d'être un parti révolutionnaire. Et sa politique se résumait à suivre tous les tournants de Staline. Entre 1928 et 1933, pour des raisons justement liées aux luttes internes en URSS, le cours politique imposé aux partis communistes internationaux se voulait radical, dans les mots, hein. Pour tous les partis communistes, cela se traduisait par des discours sur la révolution imminente et des actions radicales sans lien avec la réalité. Actions qui isolaient les militants communistes du reste de la classe ouvrière. Cette politique aventuriste du KPD ne lui permit pas de conquérir la confiance de la majorité des ouvriers. Alors qu'en Allemagne, la majorité de ces ouvriers étaient socialistes. Ils étaient 4,5 millions dans les syndicats sociaux-démocrates, contre 300 000 dans les syndicats communistes. Et en Allemagne, cette politique stalinienne s'accompagnait d'une campagne systématique contre la social-démocratie. Le journal communiste du Rotefaneux pouvait écrire, par exemple, « Le fascisme de Brunin n'est pas meilleur que celui de Hitler. C'est contre la social-démocratie que nous menons le combat principal. » Cette politique qui semblait si hostile à la social-démocratie la favorisait, en fait. Le sectarisme aveugle des communistes allemands permettait à la social-démocratie de répondre aux ouvriers inquiets quand même face à la montée du fascisme. Vous voyez bien qu'on ne peut rien faire avec eux, avec les militants communistes. Aucune lutte n'est possible avec des militants qui nous traitent de fascistes. Les militants communistes allemands, eux, se battirent courageusement contre les nazis. Mais c'est leur direction, soumise à la bureaucratie stalinienne, qui n'avait pas de politique propre et qui n'avait pas de perspective de lutte. Le KPD, en fait, abandonnait le combat contre le fascisme avant même de le mener. Et il camouflait cela derrière un discours qui se voulait radical. La social-démocratie, c'est le fascisme. Le gouvernement réactionnaire de Brüning, c'est le fascisme. Hindenburg, c'est le fascisme. Bien sûr que tous ces partis politiques représentaient des formes de gouvernement de la bourgeoisie, des soutiens de la bourgeoisie. Bien sûr que la social-démocratie, en refusant toute lutte contre le capitalisme, en cautionnant la politique anti-ouvrière de Brüning, préparait la voie au fascisme. Bien sûr qu'ils étaient tous dans le même camp face au prolétariat, mais dans ce camp, ils n'y jouaient pas le même rôle, et cela comptait pour les intérêts de la classe ouvrière. Prétendre que Brüning ou Hitler, c'était du pareil au même, cela revenait à dire en somme que nos organisations ouvrières existent ou pas, c'est du pareil au même. Que la classe ouvrière soit écrasée ou en voie de l'être, c'est du pareil au même. Qu'on soit encore vivant ou déjà mort, c'est pareil. Quand la bourgeoisie fit le choix de Hitler plus tard, en 1933, c'était pour pouvoir détruire entièrement toutes les organisations ouvrières. Il y avait donc une différence importante entre Brüning et Hitler, qui n'était pas de l'ordre de la morale abstraite, mais de l'existence du mouvement ouvrier. Et pourtant, le fascisme en Allemagne n'était pas une fatalité. Entre 1930 et 1933, le prolétariat avait les forces de résister, de combattre. Dès 1930, Trotsky chercha à convaincre les militants communistes allemands d'abandonner la politique criminelle de la bureaucratie stalinienne pour se poser le problème de gagner la majorité des ouvriers allemands à la lutte contre le fascisme. Il faut, affirmait-il, proposer des combats communs aux ouvriers socialistes pour protéger les locaux, pour constituer des dépôts d'armes, pour protéger les usines, bref, pour opposer la force du prolétariat uni à ces nazis qui ne savent attaquer qu'à 10 contre 1. Car ce qui se jouait en Allemagne, c'était l'existence même du mouvement ouvrier. En sauvegardant ces organisations, le prolétariat aurait pu alors mesurer sa force et se préparer au combat nécessaire contre l'ensemble de la politique bourgeoise, contre l'ensemble des capitalistes qui voulaient son écrasement. Mais évidemment, pour mener réellement la lutte contre le fascisme, il fallait un parti révolutionnaire capable de ne pas s'arrêter aux portes de la propriété bourgeoise, d'aller jusqu'au bout pour la défense des intérêts du prolétariat. Et durant ces 3 années, au lieu de cela, les politiques des 2 partis ouvriers allemands semèrent le désarroi et la démoralisation dans les rangs ouvriers. Pendant ce temps, la crise s'amplifiait. La vie des masses, souvent affamées, se passait entre les interminables attentes devant les bureaux de chômage et les soupes populaires. Le spectacle d'hommes, de femmes, d'enfants qui tombaient d'inanition dans la rue était courant. Les chômeurs finirent par être 6 millions, presque un salarié sur 3 en 1933. À partir de 1932, la bourgeoisie prépara de plus en plus clairement l'arrivée au pouvoir de Hitler. Celui-ci rencontra plusieurs fois des grands patrons allemands dans cette année 32, et les financements s'intensifièrent. Dans ce contexte, les nazis recrutaient. Les SA se gonflaient, y compris de jeunes chômeurs. Ils étaient 400 000 au printemps 32. Les attaques contre les locaux communistes, syndicaux, sociaux-démocrates se répétaient. Des militants communistes continuaient à être assassinés. Dans un livre documentaire d'un écrivain américain, W. Allien, « Une petite ville nazie », c'est le titre du livre, un ouvrier des chemins de fer allemand raconte la progression des nazis dans son entreprise. Je le cite. « Il y avait déjà pas mal de nazis parmi les directeurs. et dans le personnel des services techniques ou des bureaux. Le parti avait commencé par séduire certains hauts fonctionnaires et avait ensuite descendu les échelons. Depuis 1931, il y avait des chefs de service qui veillaient à ce que les ouvriers appartenant aux chemises brunes, ou SA, jouissent de traitements privilégiés. Il y avait souvent des discussions violentes et même des bagarres. Quand je disais du mal des nazis, dans des discussions avec d'autres ouvriers, on le rapportait à la direction, qui m'interdisait de parler pendant les heures de travail. À la fin du printemps 1932, on fit signer à tous les ouvriers socialistes une décharge qui leur enlevait leur titularisation. La plupart signèrent plutôt que de perdre leur place. Je fus le seul à tenir bon et à rester ouvertement à la SPD, la social-démocratie. En juillet 1932, 7000 SA attaquèrent un faubourg ouvrier près de Hambourg, Altona. Ils durent affronter les milices communistes bien moins nombreuses. Mais les 7000 SA n'eurent pas le dessus, malgré l'aide de la police. Ce n'était ni le courage, ni la force qui manquait aux militants ouvriers allemands, mais c'était une politique. Et le 30 janvier 1933, Hindenburg, celui que les sociaux-démocrates avaient présenté comme un rempart contre le fascisme, nomma Hitler chancelier. Le régime nazi se mettait en place. Et la social-démocratie écrivit alors dans son journal, je la cite, « Et maintenant, attendre. » Face au gouvernement de menaces de coup d'État, la social-démocratie et tout le front de fer, c'est-à-dire la milice ouvrière socialiste, se maintiennent avec les deux pieds sur le terrain de la Constitution et de la légalité. La social-démocratie ne fera pas le premier pas pour en sortir. Quant aux militants communistes, ils se trouvèrent déboussolés. Et la direction du parti n'offrait toujours aucune explication. Le KPD continuait à proclamer dans ses journaux que la nomination de Hitler n'était pas dramatique, car le pouvoir nazi s'userait forcément très vite, et alors ce serait l'heure des communistes. Et pourtant, il y aurait pu y avoir des réactions de la part de la classe ouvrière. Le 7 février, par exemple, après l'arrivée de Hitler au pouvoir, donc, une manifestation eut lieu pour protester contre l'assassinat d'un maire socialiste. Bien que les dirigeants socialistes ne veuillent d'aucun débordement dans cette manifestation, interdisant même la prise de parole communiste et concluant en appelant le peuple allemand à prendre de nouveau son destin en main lors des futures élections organisées par le régime nazi, des milliers de communistes entraînèrent quand même des socialistes à poursuivre la manifestation. Je cite un témoin. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils ont rempli la rue, les trottoirs. Les gens accourent de tous les côtés. C'est un véritable fleuve qui coule sans arrêt. Les agents les regardent sans intervenir. On y voit sur les boutonnières les trois flèches, le symbole socialiste, et la faucille et le marteau. À bas le gouvernement, à mort Hitler. Nous ne craignons maintenant aucun Hitler, Dieu soit béni, dit une petite vieille qui lève le poing et ses yeux sont remplis de larmes. La foule passa même devant un local nazi, où des SA, impuissants et étonnés, regardaient défiler les travailleurs. Mais ce fut une manifestation sans lendemain. La terrible réalité fut que Hitler arriva au pouvoir sans avoir à affronter le mouvement ouvrier en lutte, sans avoir à combattre réellement les rangs armés du prolétariat. Le mouvement ouvrier connut sa pire défaite, une défaite sans combat, face à ce qui devint une catastrophe historique. Fin février, les nazis organisèrent l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand, prétexte à l'interdiction du KPD. Quelques 4000 dirigeants communistes et socialistes furent immédiatement arrêtés. Hitler espérait faire des élections prévues, un plébiscite pour le nouveau pouvoir. Il fut même forcé de laisser les communistes et les socialistes se présenter à ces élections. Et malgré les arrestations, les meurtres et ces années d'impuissance politique, la classe ouvrière allemande vota pour ses partis dans ces dernières élections. Presque 5 millions pour le KPD et plus de 7 millions pour la social-démocratie. Les nazis ne remportèrent que 43% des voix. Ils n'obtenaient pas la majorité. Le plébiscite était raté. Les ouvriers allemands n'avaient pas abandonné leur parti. Ce sont leurs partis qui les ont abandonnés. Et c'est... Ces élections furent les dernières. par la prise en main de tous les organes du pouvoir, par la propagande, par la terreur, le nazisme installa sa dictature absolue. Le 20 février 1933, devant un cercle de grands patrons de l'industrie, IG Farben, Krupp, AEG, Siemens, Opel et d'autres, Hitler promit un avenir tranquille, le réarmement et pour les 10, voire les 100 prochaines années, la suppression des élections. La bourgeoisie avait trouvé un régime capable de répondre à ses aspirations en écrasant le mouvement ouvrier, point sur lequel tous les représentants bourgeois étaient d'accord. D'ailleurs, Hitler put compter sur les voix des partis bourgeois pour obtenir les pleins pouvoirs nécessaires à la mise en place de sa dictature, alors même qu'il n'avait pas la majorité dans la nouvelle assemblée. Par la suite, les partis bourgeois décidèrent de se dissoudre eux-mêmes. Les représentants de la bourgeoisie se fondirent dans le régime nazi sans se faire trop violence. Certes, des enseignants, des employés subalternes furent démis de leurs fonctions à cause de leurs idées. Mais plus on montait dans la hiérarchie, moins on trouvait de résistance au nazisme. La haute administration de l'État allemand s'adaptait au nazisme, même s'il fallait pour cela supporter les parvenus nazis, les plébéiens nazis, profitant de leurs nouveaux privilèges et de leurs nouveaux pouvoirs. Et le haut état-major militaire fit de même. La social-démocratie, de son côté, chercha à s'adapter pour pouvoir survivre, elle, sous le nazisme, mais ce fut sans succès. Les nazis préparaient l'interdiction de toutes les organisations ouvrières, sans exception. Après les partis, vint le tour des syndicats. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les bureaucrates syndicaux acceptèrent de participer au 1er mai, organisé par Hitler, transformé en une sorte de fête nationale du travail. Des chefs syndicalistes furent acheminés de tous les coins de l'Allemagne pour acclamer la solidarité du régime nazi avec les travailleurs. Et bien 12 heures plus tard, les locaux de ces mêmes syndicats étaient envahis, occupés par les troupes SA, les bureaucrates chassés de leurs postes et la plupart des dirigeants syndicaux arrêtés eux aussi. Durant toute l'année 1933, les masses de petits bourgeois sous l'uniforme SA furent dirigées contre le mouvement ouvrier. Les SA, dont le nombre atteignit 2 millions, purent assouvir toute leur haine, en faisant régner la terreur dans les quartiers populaires. Ils établirent des prisons clandestines dans lesquelles se déroulaient des scènes terribles. Daniel Guérin, militant et écrivain engagé, raconte dans son livre « Fascisme et grand capital ». En plein Berlin, une sorte de tour en briques rouges. Au sommet, le drapeau à croix gammée flotte. Ici, me dit un ami, on a entendu des cris, tant de cris, qu'ils ont dû pour les couvrir installer un orchestre. Et aujourd'hui encore, il doit y avoir des copains là-dedans, mais on ne sait rien. Une femme lui dit en contenant ses larmes, personne ne sait. Si vous avez de la chance, vous pouvez vous en tirer. Si vous tombez sur des sadiques, vous pouvez en sortir mutilé, fou ou mort. La voisine qui avait écouté en pleurant l'interrompt. Et quand ils reviennent, ils ne peuvent rien dire. On leur a fait signer un papier attestant qu'ils ont été bien traités. Tenez, mon mari, je l'ai questionné des jours et des nuits. Il ne desserre pas les dents. Ou bien ils répondent, comme un jeune gars que nous connaissons, plus jamais je ne ferai de politique. On estime que sur les 300 000 membres que comptait le Parti communiste allemand en 1932, entre 60 000 et 100 000 étaient détenus fin 1933. En quelques mois, les organisations ouvrières, partis et syndicats avaient disparu et leurs dirigeants avaient été envoyés dans les premiers camps de concentration. Dans les entreprises, toutes les formes d'organisation ouvrière, même les plus anodines, disparurent. Et le régime tenta d'enrôler les ouvriers dans un syndicat corporatiste et nazi. Mais surtout, les ouvriers furent soumis à une dictature patronale, renforcée par la répression et la terreur, exercée directement dans les entreprises par des nazis en armes. Le droit de grève fut aboli. Les ouvriers coupables de contestation pouvaient non seulement être sanctionnés ou renvoyés par les patrons, mais finir en prison. Bientôt, le livret de travail fut institué pour soumettre encore plus les ouvriers à leur employeur. La destruction du mouvement ouvrier permit l'encadrement de toute la société. La police politique, la Gestapo, les centaines de milliers de mouchards dans tous les recoins de la société surveillaient, espionnaient la population allemande. Le régime put embrigader la jeunesse dans des organisations nazies. Les jeunes devinrent les mouchards de leurs propres parents, tout en se préparant à servir de chair à canon. La société allemande fut submergée par des torrents de haine développés par le nazisme. Haine contre les ouvriers, haine contre toutes les idées progressistes et haine contre les juifs. Les violences antisémites se multipliaient. Elles allaient conduire au génocide durant la guerre. Et cela, dans le pays le plus civilisé d'Europe, celui où la culture était la plus largement partagée, où la société était la plus policée. En 1934, quand l'écrasement du mouvement ouvrier fut achevé, la grande bourgeoisie commença à trouver les exactions des SA inutiles et nuisibles. Ceux-ci avaient cru que le régime allait leur offrir une place, mais rien n'était plus faux. En juin 1934, Hitler décida de se débarrasser de ce qui pouvait devenir une opposition, en massacrant les principaux chefs SA. Ce fut ce qu'on appela la nuit des longs couteaux. Le fascisme allemand, comme le fascisme italien, écrivait Trotsky en juin 1933, s'est hissé au pouvoir sur le dos de la petite bourgeoisie, dont il s'est servi comme d'un bélier contre la classe ouvrière et les institutions de la démocratie. Mais le fascisme au pouvoir n'est en aucun cas le gouvernement de la petite bourgeoisie. Au contraire, c'est la dictature la plus impitoyable du capital monopolistique. Autant le régime nazi était spécifique, différent des autres régimes bourgeois, par l'utilisation des classes moyennes pour écraser le mouvement ouvrier, par l'encadrement et l'endoctrinement de toute la population, autant sa politique économique fut semblable à celle des autres pays impérialistes. D'ailleurs, si les nazis s'installèrent aux commandes de l'État, tout ce qui concernait l'économie passa directement dans les mains des représentants du grand capital. Le directeur général du groupe Alliance devint ministre de l'économie en juillet 1933, puis il fut remplacé par un représentant des banques. Face à la situation économique désastreuse, le grand capital profita de la dictature nazie pour augmenter son poids dans l'économie. Dès juillet 1933, les cartels devinrent obligatoires au profit des grandes entreprises. En 1936, les cartels régissaient les deux tiers de la production. Ils contrôlaient les marchés, ils décidaient des prix et des salaires. Les nazis imposèrent un encadrement de toute l'économie qui profita principalement à ces grandes entreprises. Toutes les entreprises d'un secteur donné devaient se fondre dans des structures dirigées directement par les plus gros capitalistes du secteur et toutes devaient se soumettre à leurs décisions. Les entreprises dont le capital était inférieur à 20 000 dollars furent simplement dissoutes. Et enfin, l'État réduisit presque de moitié les impôts pour les entreprises. L'objectif de Hitler, c'était la guerre pour un repartage du monde. Très vite, toute l'économie fut soumise à l'impératif du réarmement. La moitié du budget de l'État fut consacrée aux commandes militaires. Les commandes publiques les plus importantes pour la grande industrie furent celles liées à ce réarmement. En 1935, la production d'avions fut relancée, malgré l'interdiction faite à l'Allemagne de construire des avions et des chars. De 1936 à 1940, un plan organisa la production d'armes, de chars, de munitions. Les industries lourdes fonctionnaient désormais à plein régime. Évidemment, ce fut la population qui paya le prix le plus élevé. Les importations furent limitées au minimum incontournable et destinées en priorité à l'industrie lourde. Toute la production était tournée vers l'armement au détriment des biens destinés à la population. Celle-ci dut se contenter bien souvent de produits de substitution. Les ouvriers avaient été réduits à l'esclavage. Et ce furent eux qui payèrent le réarmement de l'Allemagne. Les salaires furent diminués de 40 à 50% dans bien des régions. À cela, il fallait ajouter la multitude des nouveaux impôts ou cotisations pour les organisations nazies, comme le Front du Travail, la Force par la Joie, la Défense anti-aérienne et Jeunesse hitlérienne. Non seulement les salaires s'effondraient, mais les femmes furent massivement licenciées. Il fut même instauré, pour les jeunes femmes voulant travailler, l'obligation de servir gratuitement une année comme fille de ferme ou domestique en ville. Pour les chômeurs, les aides étaient réduites. Dans de nombreuses communes, pour recevoir l'allocation, il fallait prouver qu'on avait démarché 25 entreprises dans la semaine, et cela chaque semaine. Et pour relancer l'économie, Hitler se lança dans une politique de grands travaux, similaire à celle de Roosevelt. 2000 km d'autoroute, des bâtiments urbains, des gares furent construits dans ces chantiers publics où l'on faisait travailler les ouvriers sans machines, à la pelle et à la pioche, pour des salaires de misère. Dans ces chantiers, les chômeurs percevaient moins que les salaires minimums. Ces grands travaux permirent la résorption du chômage, mais en réduisant les chômeurs au rang de forçats, alors que les manias du fer et du ciment profitaient des commandes de l'État. Pendant ce temps, les profits des entreprises furent multipliés par 30 entre 1903 et 1939. Et sur ce, nous allons faire une pause.
Nous allons faire une pause d'un quart d'heure. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons, si vous quittez votre siège, de bien vouloir prendre vos affaires avec vous. Et nous reprendrons à 10h05.